Bonjour amis auditeurs, nous nous retrouvons pour cette ultime émission sur les Actes des Apôtres en compagnie de Saint Jean Chrysostome. Nous sommes dans la 53e homélie et donc nous retrouvons notre héros, le héros aussi cher au cœur de Jean Chrysostome, l'apôtre Paul, qui donc se trouve à passer l'hiver à Phénice à bord du bateau qui le mène à Rome. Considérez, je vous prie, les desseins de la Providence. Ils commencèrent par lever l'ancre et ils partirent. Ensuite, le vent ayant soufflé avec violence, ils furent forcés de s'abandonner à sa discrétion et eurent beaucoup de peine à se sauver. Et comme le port n'était pas propre pour hiverner, la plupart furent d'avis de se mettre en mer pour tâcher de gagner Phénice, qui est un port de Crète qui regarde les vents du couchant d'hiver et d'été, afin d'y passer l'hiver. Le vent du midi commençait à souffler doucement. Ils pensèrent qu'ils viendraient à bout de leur dessein, et ayant levé l'ancre, ils côtoyèrent le plus près qu'ils purent l'île de Crète. Mais il se leva peu après un vent impétueux de nord-est qui donnait contre l'île. Et comme il emportait le vaisseau sans que nous ayons pu y résister, nous l'avons laissé aller au gré du vent. Nous avons été poussés au-dessous d'une petite île appelée Claude, où nous avons pu à peine être maîtres de l'esquif. Mais l'ayant enfin tiré à nous, les matelots employèrent toutes sortes de moyens et lièrent le vaisseau par-dessous, craignant d'être jetés sur des bancs de sable. Ils abaissèrent les voiles et s'abandonnèrent ainsi à la mer. Et comme nous étions rudement battus par la tempête, le jour suivant ils jetèrent les marchandises dans la mer, et le troisième jour ils y jetèrent aussi de leurs propres mains tous les agrès du vaisseau. Le soleil ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours, et la tempête était toujours si violente que nous avons perdu toute espérance de nous sauver. Mais comme il y avait longtemps que personne n'avait mangé, Paul, se levant au milieu d'eux, dit « Remarquez qu'à la suite de cette violente tempête, il ne leur parle pas avec insolence, mais qu'il veut simplement les disposer à ajouter à l'avenir plus de foi en ses paroles qu'ils ne l'ont fait. Voilà pourquoi il allègue ce qui vient de se passer comme confirmant la vérité de ce qu'il va dire. » Et il leur prédit deux choses, à savoir qu'ils seront jetés par les flots dans une île et que le navire périra, mais que les passagers seront sauvés, ce qui n'était pas une pure conjecture, mais une prophétie, et qu'il doit lui-même comparaître devant César. Et ces paroles, « Dieu nous a donné tous ceux, ce n'est pas une vaine jactance qu'il prononce, mais pour amener à la vraie foi ses compagnons de navigation », il ne leur parle pas ainsi pour qu'ils lui soient reconnaissants de ce qu'il a fait, mais pour qu'ils croient à la vérité de ses paroles. En disant « Dieu vous a donné », c'est comme si Paul disait « Ils ont mérité la mort car ils n'ont pas voulu t'écouter, mais en ta faveur je consens à leur faire grâce. » Et parce qu'il y avait longtemps que personne n'avait mangé, Paul, se levant au milieu d'eux, leur dit « Sans doute, mes amis, vous auriez mieux fait de me croire et de ne point partir de Crète pour nous épargner tant de peines et une si grande perte. » Je vous exhorte néanmoins à avoir bon courage, parce que personne ne périra, et il n'y aura que le vaisseau de perdu. Car cette nuit même, un ange de Dieu à qui je suis et que je sers, m'a apparu et m'a dit, « Paul, ne craignez point, il faut que vous comparaissiez devant César. Et je vous annonce que Dieu vous a donné tous ceux qui naviguent avec vous. C'est pourquoi, mes amis, ayez bon courage, car j'ai cette confiance en Dieu, que ce qui m'a été dit arrivera. » Mais nous devons être jetés dans une certaine île. La 14e nuit, comme les vents nous poussaient de tous côtés sur la mer Adriatique, les matelots crurent vers minuit qu'ils approchaient de quelque terre. Et ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses, et un peu plus loin, ils en trouvèrent 15. Mais craignant que nous n'allions donner contre quelque écueil, ils jetèrent 4 ancres du côté de la poupe, et ils attendaient avec impatience que le jour paraisse. Or, comme les matelots cherchaient à s'enfuir du vaisseau, et qu'ils descendaient l'esquif en mer, sous prétexte d'aller jeter les ancres du côté de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces gens-ci ne demeurent pas dans le vaisseau, vous ne pouvez vous sauver. » Alors les soldats coupèrent les câbles de l'esquif et le laissèrent tomber. Il nous a montré par là que les matelots, ne croyant pas à la vérité de ses paroles, étaient sur le point de s'éloigner du navire. Mais le centenier et tous les soldats qui étaient avec lui ne partageaient pas leur incrédulité. Voilà pourquoi il dit, Si ces gens-ci prennent la fuite, vous ne pouvez vous sauver. » Au fond, il ne parle pas ainsi pour épargner ce malheur à ceux auxquels il s'adresse, mais pour retenir les matelots et pour que la prophétie tout entière s'accomplisse. Paul leur enseigne à tous sa sublime philosophie, comme s'ils étaient réunis dans une église, et il les retire du milieu des dangers. Et la providence permet que d'abord l'on n'ajoute pas foi au discours de Paul, afin que l'expérience même des événements ramène la confiance en ses paroles. Et c'est ce qui arriva. Puis il les exhorte à prendre de la nourriture, et c'est ce qu'ils font. Et lui-même en prend le premier, pour les persuader, non par des paroles, mais par des actes, que la tempête ne doit faire aucun mal à leur corps, bien plus qu'elle doit profiter à leurs âmes. Au point du jour, Paul les exhorta tous à prendre de la nourriture, disant « Il y a aujourd'hui 14 jours que vous êtes à jeun, et que vous n'avez rien pris en attendant la fin de la tempête. C'est pourquoi je vous exhorte à prendre de la nourriture, pour vous pouvoir sauver, car il ne tombera pas un seul cheveu de la tête d'aucun de vous. » Après avoir dit cela, il prit du pain, et ayant rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et commença à manger. Tous les autres prirent courage à son exemple et se mirent aussi à manger. Or, nous étions dans le vaisseau 276 personnes en tout. Quand ils furent rassasiés, ils soulagèrent le vaisseau en jetant le blé dans la mer. Le jour étant venu, ils ne reconnurent point quelle terre c'était, mais ils aperçurent un golfe ayant un rivage, et ils résolurent d'y faire échouer le vaisseau s'ils pouvaient. Ils retirèrent les ancres et lâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, et s'abandonnant à la mer, après avoir déployé la voile de l'artimon, ils tiraient vers le rivage à la faveur du vent. Mais ayant rencontré une langue de terre qui avait la mer des deux côtés, ils y firent échouer le vaisseau, et la proue s'y étant enfoncée demeurait immobile, mais la poupe se rompit par la violence des vagues. Le démon tente de nouveau d'empêcher l'accomplissement de la prophétie. Déjà, ils avaient décidé qu'un certain nombre de passagers seraient mis à mort, mais le centenier voulant sauver Paul ne le permit pas, tant il avait déjà d'attachement pour lui. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'entre eux, s'étant sauvé à la nage, ne s'enfuit. Mais le centenier les en empêcha, parce qu'il voulait sauver Paul, et il commanda que ceux qui pouvaient nager se jettent les premiers hors du vaisseau et se sauvent à terre, et que les autres se mettent sur des planches et sur des pièces du vaisseau. Et ainsi, ils gagnèrent tous la terre et se sauvèrent. Et s'étant ainsi sauvés, ils reconnurent que l'île s'appelait Malte. Voyez-vous tout le bien qui est sorti de cette tempête? Si cette tempête est arrivée, ce n'est pas que la main de Dieu les ait abandonnés. Et comment, direz-vous, pouvaient-ils tenir ainsi à jeun, et ne prenant aucune nourriture? Ils étaient sous l'empire d'une crainte si vive qu'elle ne leur permettait pas de ressentir les atteintes de la faim au moment même où ils allaient courir les plus grands dangers. Et la merveille est bien plus grande que, dans un tel moment, ils aient été sauvés du milieu des dangers lui-même et tous les autres à cause de lui. Et voyez comme Paul sait mettre à profit pour enseigner sa doctrine tous ses retards, tous ses contretemps. Et ce n'était pas un petit résultat que d'amener à la vraie foi tous ces hommes. Les uns donc se sauvèrent à la nage, les autres sur des radeaux, de sorte qu'il n'y eut pas un seul des passagers qui n'échappe à la mort et que la prophétie reçoive enfin son accomplissement, bien que sans éclat, quant à la durée du temps écoulé. En effet, ce n'était pas plusieurs années à l'avance que Paul avait prédit ces événements, mais il s'était contenté de suivre comme pas à pas la marche naturelle des choses. Tout ici dépassait les espérances purement humaines, et ce ne fut qu'au prix de leur propre délivrance qu'ils apprirent qui il était. On dira peut-être, mais pourquoi n'a-t-il pas sauvé aussi le navire? Pour qu'ils sachent bien à quel danger ils venaient d'échapper, et parce que rien n'arrivait ici par l'effet d'un secours purement humain, mais par la main de Dieu qui les a sauvés, bien qu'il n'ait plus de navire. Ainsi les justes, dans le déchaînement même des tempêtes, au milieu des flots d'une mer en courroux, non seulement ne souffrent aucun mal, mais encore ont le pouvoir de sauver ceux qui sont avec eux. Si ces prisonniers, après que le navire a été ballotté par les flots et a fait naufrage, ont été sauvés par Paul, songez combien on doit s'estimer heureux de posséder dans sa maison un saint homme, car sur cette terre, bien des tempêtes tout autrement terribles que celle-là se déchaînent sur nous. Mais Dieu peut nous sauver, pourvu que nous écoutions les saints, comme firent ces prisonniers, pourvu que nous fassions ce qu'ils nous prescrivent. et ils ne sont pas sauvés purement et simplement, mais encore ils ont porté avec eux la foi dans le monde. Bien qu'un saint soit enchaîné, il opère encore de plus grandes choses que ceux qui sont libres. Et remarquez que c'est ce qui arrive ici. Le centenier, tout libre qu'il était de ses mouvements, avait besoin de cet homme enchaîné. Le pilote, si expérimenté dans son art, avait besoin de celui qui n'entendait rien à cet art, et qui, en réalité, était en ce moment le vrai pilote. En effet, ce n'était pas ce navire-là, mais l'Église universelle qu'il gouvernait, non à l'aide d'un art tout humain, mais en vertu d'une science toute spirituelle, après avoir appris ce gouvernement de celui qui est aussi le maître de la mer. Pour ce navire, il y a aussi bien des écueils, bien des flots soulevés, bien des souffles de malice. Ce n'est que combat au dehors, que frayeur au dedans. De sorte que le véritable pilote, c'était lui. Jetez un coup d'œil sur l'ensemble de la vie humaine. Tantôt nous sommes l'objet de toute la bienveillance de nos semblables, tantôt nous sommes ballottés au gré de leurs caprices, et souvent aussi nous tombons dans mille maux par nos propres folies ou par nos propres négligences. Mais bien plus encore parce que nous n'écoutons pas Paul et que nous nous hâtons d'aller là où il ne veut pas que nous allions. En effet, maintenant encore, il est embarqué avec nous, mais sans être enchaîné comme il l'était alors. Maintenant encore, il exhorte ceux qui naviguent sur la mer de ce monde et leur dit « Prenez garde à vous-même, car je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups ravissants. » Et encore, « Dans les derniers jours, il viendra des temps fâcheux, et il y aura des hommes amoureux d'eux-mêmes, avares, glorieux. Et ce vent-là est bien plus dangereux pour ceux qui traversent les flots agités de cette vie. » Restons donc où il nous ordonne de rester dans la foi, qui est pour nous le port le plus sûr. Homélie. Et les barbares nous traitèrent avec beaucoup de bonté, car ils nous reçurent tous chez eux, et ils allumèrent un grand feu à cause de la pluie et du froid qu'il faisait. Alors, Paul, ayant ramassé quelques sarments et les ayant mis au feu, une vipère que la chaleur en fit sortir le prit à la main. Le texte nous explique de quelle manière les barbares leur témoignèrent leur humanité. Ils nous reçurent tous chez eux, dit-il, et allumèrent un grand feu. Comme il était inutile qu'ils cherchent à se sauver par un tel froid qui les aurait fait périr, ils allumèrent un grand feu. Paul ensuite jette dans le feu les sarments qu'il a ramassés. Voyez-le toujours agissant et ne cherchant jamais à faire des miracles sans raison et sans but, mais seulement par nécessité. Et au moment même où la tempête s'est levée, ce n'était pas sans avoir des raisons qu'il prophétisait. Ici donc, il se contente d'alimenter le feu sans chercher par cela à se donner la moindre importance, mais uniquement pour que ses compagnons de voyage puissent se réchauffer et se remettre par ce moyen. Et en ce moment même, une vipère que la chaleur avait fait sortir le prit à la main. Et quand les barbares virent cette bête qui pendait à sa main, ils s'entredisaient. Cet homme, c'est sans doute quelque meurtrier, puisque après avoir été sauvé de la mer, la vengeance divine le poursuit encore et ne veut pas le laisser vivre. Et ce n'est pas sans raison que la Providence permet qu'il soit témoin de cet accident et qu'ils en parlent en ces termes, afin que lorsque le miracle sera arrivé, ils ne refusent pas d'y croire. Et voyez comme le sens commun et la raison naturelle se montrent dans toute leur rectitude, même chez les barbares. Voyez tout ce qu'il y a d'honnêteté dans leurs sentiments et de réserve dans leurs jugements. Et ceux-ci sont les premiers à voir, afin qu'ils en admirent davantage ce qui va arriver. Mais Paul, ayant secoué la vipère dans le feu, n'en reçut aucun mal. Les barbares s'attendaient à ce que sa main enflerait ou qu'il tomberait mort tout d'un coup. Mais après avoir attendu longtemps, lorsqu'ils virent qu'il ne lui en arrivait aucun mal, ils changèrent de sentiment et dirent que c'était un dieu. Ceux qui s'attendaient à le voir tomber mort, voyant qu'il n'éprouvait aucun mal, disent maintenant « c'est un dieu ». Et voilà que, de nouveau, il est comblé d'honneur par ses hommes, comme il le fut par cette multitude de la Lycaonie. Or, il y avait en cet endroit un nommé Publius, le premier de cette île, qui nous reçut et exerça avec une grande bonté l'hospitalité envers nous pendant 3 jours. Voilà un nouveau Publius, hospitalier comme le premier, vivant dans l'opulence. Celui-ci, qui ne savait rien de la religion du Christ, mais que le seul spectacle de leur malheur disposait à la pitié, les reçut et leur prodigua ses soins. Or, il se rencontra que le père de Publius était malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul alla le voir, et ayant fait sa prière, il lui imposa les mains et le guérit. Il méritait bien d'obtenir de Paul ce service, et celui-ci, par un échange de bons procédés, guérit son père. Après ce miracle, tous ceux de l'île qui étaient malades vinrent à lui, et ils furent guéris. Il nous rendit ainsi de grands honneurs, et ils nous pourvurent de tout ce qui était nécessaire pour notre voyage. C'est-à-dire tout ce qui est nécessaire soit à nous, soit aux autres qui étaient avec nous. Considérez qu'à cause de Paul, après avoir échappé à la tempête, ils ne restent pas privés de soins, et sont même entourés de tous les égards d'une généreuse hospitalité, car ils furent nourris en cet endroit pendant 3 mois. Écoutez de quelle manière la suite du texte établit qu'ils sont demeurés là pendant tout ce temps. Au bout de 3 mois, nous nous sommes embarqués sur un vaisseau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne Castor et Pollux. Nous avons abordé à Syracuse, où nous sommes restés 3 jours. De là, en côtoyant la Sicile, nous sommes venus à Regium. Et un jour après, le vent du midi s'étant levé, nous sommes arrivés en 2 jours à Pouzzoles, où nous avons trouvé des frères qui nous prirent de demeurer 7 jours auprès d'eux, et ensuite nous avons pris le chemin de Rome. Lorsque les frères de Rome eurent appris des nouvelles de notre arrivée, ils vinrent au-devant de nous jusqu'au lieu appelé le marché d'Appius et les 3 hôtelleries. Et Paul, les ayant vus, rendit grâce à Dieu, et fut rempli d'une nouvelle confiance. Voyez comme tout cela arrive à cause de Paul pour amener à la foi les prisonniers, les soldats, le centenier. Car même s'ils avaient été de Pierre, ils ne pouvaient manquer de se faire une haute idée de lui par les conseils qu'il leur avait donnés, par les prophéties qu'il avait fait entendre, par les miracles qu'il avait opérés, et enfin par ses bienfaits, car c'était à lui qu'il devait d'avoir été nourri si longtemps. Remarquez de quelle manière, quand le jugement est droit, et qu'aucune passion ne le trouble, il accueille les pensées droites et sages. La prédication chrétienne avait déjà pénétré en Sicile, et elle était arrivée jusqu'à Pouzzoles, puisqu'ils y trouvent un certain nombre de frères auprès desquels ils demeurent. Là, d'autres que la renommée avait attirés vinrent au-devant d'eux. L'affection qui unissait entre tous ces frères était si vive qu'ils ne furent pas troublés dans leur résolution par cette pensée que Paul était dans les fers, mais se hâtèrent de venir au-devant de lui. Avez-vous remarqué en même temps comme l'âme de Paul en cette circonstance souffre à des sentiments tout humains? Les ayant vus, dit notre texte, il fut rempli d'une nouvelle confiance. Bien qu'il ait déjà opéré tant de prodiges, il n'en puisa pas moins dans cette vue de ses frères de nouvelles forces, un nouveau courage. Et cela nous apprend que, comme celle des autres hommes, son âme s'abandonnait tantôt au découragement, tantôt à l'espérance. Quand nous sommes arrivés à Rome, il fut permis à Paul de demeurer où il voudrait avec un soldat qui le gardait. C'est une bien forte preuve qu'il était l'objet de l'admiration publique. Déjà, on ne le mettait plus sur le même rang que les autres prisonniers. Or, il arriva que 3 jours après, Paul pria les principaux d'entre les Juifs de venir le trouver. 3 jours après, c'est-à-dire avant qu'on ait eu le temps de semer des préventions dans leurs esprits. Qu'y avait-il de commun entre eux et lui ? Ce n'étaient pas ces Juifs qui devaient l'accuser. Mais Paul néglige cette circonstance. Il veut leur enseigner sa doctrine dès ce moment. Cinquante-cinquième homélie. 3 jours après, Paul pria les principaux d'entre les Juifs de venir le trouver, et quand ils furent venus, il leur dit « Mes frères, quoique je n'ai rien commis contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été fait prisonnier à Jérusalem et mis entre les mains des Romains, qui, m'ayant examiné, voulaient me mettre en liberté, parce qu'ils ne me trouvaient coupable d'aucun crime qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposant, j'ai été contraint d'appeler à César, sans que j'aie dessein néanmoins d'accuser en aucune chose ceux de ma nation. » C'est pour ce sujet que je vous ai prié de venir ici, afin de vous voir et de vous parler, car c'est pour l'espérance d'Israël que je suis lié de cette chaîne. C'est bien à propos qu'il convie ainsi les principaux d'entre les Juifs à avoir un entretien avec lui. Il désirait à la fois se justifier lui-même et justifier les autres. Lui-même, de peur qu'il ne l'accuse et que cela ne leur fasse du tort. Les autres, de peur qu'il ne semble que c'était d'eux que dépendait l'issue de toute cette affaire. Car il est vraisemblable que le bruit s'était répandu, qu'il avait été livré par les Juifs. Or, cette circonstance suffisait pour frapper l'esprit des Juifs de Rome. Il va donc au plus tôt au devant de cette difficulté, et voyez avec quelle douceur il entame sa propre défense. « Mes frères, quoique je n'ai rien commis contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été fait prisonnier à Jérusalem et mis entre les mains des Romains. » Après ces paroles, comme il était vraisemblable que quelques-uns de ceux qui l'entendaient allaient dire « Mais comment croire qu'il ait été livré par eux sans raison ?» il ajoute « Qui, m'ayant examiné, voulait me mettre en liberté ?» Comme s'il disait « Ils attestent mon innocence, les magistrats des Romains, lesquels m'ont jugé et voulaient me mettre en liberté. » Mais pourquoi donc ne t'ont-ils pas mis réellement en liberté ? Les Juifs s'y opposant, ajoute-t-il. Voyez comme il atténue leur faute, car s'il avait voulu les aggraver, il n'avait qu'à prendre à leur sujet un ton plus vif et plus véhément. Il se contente d'ajouter « J'ai été contraint d'en appeler à César ». Ainsi, tout tourne à l'indulgence et au pardon. Ensuite, de peur que l'on ne dise « Mais quoi ? Est-ce donc pour avoir un prétexte de les accuser que tu en as appelé ?» Il prévient tout malentendu en ajoutant « Sans que j'aie dessein néanmoins d'accuser en aucune chose ceux de ma nation. » C'est-à-dire, j'en ai appelé à César non pour avoir occasion de les accuser, mais pour échapper au danger qui me menaçait moi-même. Car c'est à cause de vous que je suis chargé de ces chaînes. Tant s'en faut que je sois animé de sentiments de haine à votre égard, qu'au contraire, c'est pour vous que je suis chargé de chaînes. Et eux, que disent-ils ? Ils sont tellement gagnés par ce discours qu'ils parlent comme s'ils cherchaient à se justifier eux-mêmes vis-à-vis de lui, et non seulement eux-mêmes, mais encore leurs compatriotes. Ils lui répondirent « Nous n'avons point reçu de lettre de Judée sur votre sujet, et il n'est venu aucun de nos frères de ce pays-là qui nous ait dit du mal de vous. Mais nous voudrions bien que vous nous disiez vous-même vos sentiments, car ce que nous savons de cette secte, c'est-à-dire qu'on la combat partout. » Comme s'ils disaient ni par lettre ni verbalement, ils ne nous ont dit aucun mal de vous. Toutefois, nous voulons vous entendre vous-même à ce sujet. Et ils prennent les devants quant à la manifestation de leurs propres sentiments en ajoutant « Ce que nous savons de cette secte, c'est qu'on la combat partout. » Ils ne disent pas « Nous la combattons, mais on la combat », se justifiant ainsi de tout reproche d'opposition. Ayant donc pris jour avec lui, ils vinrent en grand nombre le trouver dans sa demeure, et il leur prêchait le royaume de Dieu, leur confirmant ce qu'il leur disait par plusieurs témoignages. Et depuis le matin jusqu'au soir, il tâchait de les persuader la foi de Jésus par la loi de Moïse et les prophètes. Les uns croyaient ce qu'il disait, et les autres ne le croyaient pas. Avez-vous remarqué qu'il ne leur répond pas immédiatement, mais qu'il leur fixe un jour pour venir l'entendre ? Car quand ils sont venus, c'est la loi de Moïse, ce sont les prophètes qui sont le point de départ et le fondement de ses discours. Et les uns croyaient, les autres ne croyaient pas. Et ne pouvant s'accorder entre eux, ils se retiraient. Ce qui donna sujet à Paul de leur dire cette parole. C'est avec grande raison que le Saint-Esprit qui a parlé à nos pères par le prophète Isaïe a dit « Allez vers ce peuple et dites-lui, vous écouterez et en écoutant, vous n'entendrez pas. Vous verrez et en voyant, vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple s'est appesanti et leurs oreilles sont devenues sourdes. Et ils ont bouché leurs yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, et que s'étant convertis, je ne les guérisse. » Pendant qu'ils se retiraient en disputant les uns contre les autres, il leur cite Isaïe, non pour injurier ceux qui ne croient pas, mais pour confirmer dans la foi ceux qui croient. Que dit Isaïe ? Vous écouterez, et en écoutant, vous n'entendrez point. Voyez-vous comme implicitement ils montrent qu'ils sont indignes de tout pardon, puisque, ayant un prophète qui d'avance, il y a tant de siècles, leur a avancé tout cela, ils ne se sont pas convertis. Par ces mots, c'est avec grande raison, il fait voir que c'est bien justement qu'ils ont été exclus du pardon, de sorte qu'il n'a été donné qu'aux gentils de connaître ce mystère. Et quant à la résistance et à l'endurcissement des Juifs, ils n'ont rien qui doive nous surprendre. Ils avaient été prédits il y a bien longtemps. Cherchant toutefois à faire naître en eux une sainte jalousie à la pensée de la conversion des gentils, il ajoute « Sachez donc que ce salut de Dieu est envoyé aux gentils et qu'ils le recevront. Lorsqu'il leur eut dit ces choses, les Juifs s'en allèrent, ayant de nouveau de grandes conversations entre eux. Paul ensuite demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée, où il recevait tous ceux qui le venaient voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui regarde le Seigneur Jésus-Christ avec toute liberté, sans que personne l'en empêche. Ainsi soit-il. Ainsi éclate au grand jour la liberté dont il jouit. Lui, qu'on avait empêché de prêcher en Judée, prêche à Rome sans aucun obstacle, puisqu'il y demeure 2 ans, s'y livrant sans relâche à la prédication. L'historien arrête ici son récit et laisse son lecteur tourmenté, pour ainsi dire, par la soif et obligé de chercher en lui-même ce qu'il veut savoir. C'est ainsi qu'agissent aussi les auteurs profanes. Car lorsqu'on sait tout, l'esprit se laisse aller une sorte de mollesse et de somnolence. C'est donc ainsi que procède l'historien sacré. Il ne raconte rien des choses qui ont suivi, jugeant cela inutile à ceux qui liront les auteurs qui en ont parlé et qui trouveront le moyen de suppléer à ceux qui manquent ici. Car ceux qui a suivi devaient être en parfait accord avec ceux qui a précédé. Que voulez-vous apprendre touchant les choses qui ont suivi? Elles ne sont pas différentes de celles qui précèdent. Des chaînes, des tortures, des combats, des prisons, des embûches, des délations, les bourreaux faisant chaque jour de nouvelles victimes. N'avez-vous pas aperçu déjà une petite partie de ce tableau? Représentez-vous tout le reste d'après cela. Si vous attachez vos regards sur une partie déterminée du ciel, en quelque lieu que vous alliez ensuite, vous apercevrez la même chose. De même, si vous ne voyez qu'en partie les rayons du soleil, vous pourriez, d'après cette impression, vous représenter l'image de cet astre. Ainsi en est-il de Paul. Vous avez vu une partie de ses actes. Tous les autres le ressemblent, c'est-à-dire qu'en tous, vous ne trouvez qu'angoisse et péril. Paul était comme un autre ciel, bien supérieur au nôtre, puisqu'il était tout illuminé par le soleil de justice qu'il portait en lui, et non par ce soleil vulgaire. Croyez-vous donc que ce soit là peu de chose? Pour moi, je ne le crois pas. Lorsqu'on parle de l'apôtre, immédiatement tout le monde songe à Paul. Lorsqu'on parle de Baptiste, tout le monde songe à Jean. À quoi pourrait-on comparer son éloquence? À la mer, à l'océan. Mais il n'y a aucune parité. Les flots de sa parole sont bien plus pressés, ils sont bien plus limpides, et en même temps bien plus profonds que ceux de la mer. Pour donner une idée de l'âme de Paul, il faudrait la comparer à la fois au ciel et à la mer, à l'un pour sa pureté, à l'autre pour sa profondeur. Cette mer ne sert pas à porter les navigateurs d'une ville dans une autre. Elle les porte de la terre au ciel, et celui qui se confie à ses flots sera sûr de naviguer avec un vent favorable. Sur cette mer, les vents ne se déchaînent pas. À leur place, c'est le souffle divin du Saint-Esprit qui enfle les voiles et conduit les âmes au port. Il n'y a ici ni soulèvement des vagues, ni écueil, ni monstre marin. Le calme le plus profond y règne. Cette mer est plus tranquille et plus sûre que quelques ports qu'on puisse imaginer. Les flots qu'elle roule ont l'éclat et la transparence même du soleil. Cette mer ne renferme dans ses abîmes ni des pierres précieuses, ni le mollusque non moins précieux dont on extrait la pourpre. Elle renferme des trésors bien plus riches. Celui qui veut descendre au fond de cette mer n'a pas besoin de plongeur, ni de quelque autre artifice que ce puisse être. Il n'a besoin que d'une grande philosophie. Il y trouvera tous les biens que renferme le royaume des cieux. Que dis-je ? Il pourra lui-même devenir roi, étendre sa domination sur le monde entier et monter au faîte des plus grands honneurs. Sur cette mer, le navigateur n'éprouvera aucun naufrage parce qu'il saura tout et dans la perfection. Mais il arrive sur cette mer comme sur l'autre que ceux qui s'y risquent sans aucune expérience y trouvent la mort. C'est en effet le sort qui attend les hérétiques, qui tente ce qui est au-dessus de leur force. Il faut connaître la profondeur de cette mer avant de rien tenter. Avant donc de nous y embarquer, saignons nos reins avec le plus grand soin. Je n'ai pu, dit-il, vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des personnes encore charnelles. Que celui qui manque de patience n'entreprenne pas cette navigation. Ayons soin de nous pourvoir d'avance de tout ce qui est nécessaire, je veux dire du zèle, de la ferveur, des prières. Ce n'est que par ces moyens que nous pourrons tranquillement traverser les eaux vives de cette mer. Celui qui tient en main pour sa défense un glaive d'acier fortement trempé est pour ainsi dire inexpugnable. Il en est ainsi de celui qui connaît Paul. Son âme est si fortement trempée qu'elle résiste à toutes les attaques. Mais ce n'est qu'à l'aide d'une vie pure que l'on peut comprendre les pensées de Paul. Convaincus de cette vérité, donnons à notre âme cette belle santé qu'une sainte émulation nous anime à imiter Paul, cette âme vaillante, cette âme de diamant, afin que, marchant sur ses traces, nous puissions traverser cet océan de la vie présente, aborder à ce port dont rien ne trouble la tranquillité, et obtenir ainsi les biens promis à ceux qui vivent d'une manière digne du Christ, par la grâce et par la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, avec lequel gloire, puissance, honneur au Père et au Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. C'est avec ce discours empreint de beaucoup de classicisme, bien dans le ton de Saint Jean Chrysostome quand il parle de son héros, Saint Paul, que se referme donc son œuvre sur les Actes des Apôtres. Eh bien, chers amis auditeurs, je vous donne rendez-vous, toujours sur les ondes de votre radio chrétienne, pour continuer nos investigations dans le monde des Pères de l'Église. Et je vous dis à bientôt.